Je vous propose de commencer par prier pour ce message et pour les instants qui vont suivre. Père Saint, nous te louons, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous réjouissons, Seigneur, parce que c'est toi le roi, c'est toi qui règnes, Seigneur. Te prions de te servir de ces instants, Seigneur, pour nous transmettre les mots que toi tu as prévus, Seigneur. Que ça soit toi qui prenne toute la place, Seigneur. Que ça soit toi qui sois glorifié, Seigneur. Te prions de nous remplir ton Saint-Esprit, de nous éclairer, Seigneur, pour comprendre ce que toi tu veux nous dire, Seigneur. Merci pour toutes choses, Père. Amen. Le thème du message ce matin, c'est aller plus loin. Et on va se focaliser principalement sur ce qui nous bloque pour aller plus loin avec Dieu. C'est sûrement, enfin en tout cas moi ça fait partie des désirs de mon cœur, comment on fait pour aller plus loin et qu'est-ce qui me retient d'aller plus loin, etc. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et j'ai voulu approfondir dans la parole, voir des exemples qui nous sont donnés, ce qui ont bloqué l'avancement des personnes et ce qui ont bloqué l'avancement du règne de Dieu, au moins momentanément. Donc il y a ça, et il y a aussi l'aspect, une fois qu'on a été plus loin, comment on fait pour pas retourner en arrière? Vous savez, des fois on va loin, puis hop, on revient en arrière. Donc l'idée c'est d'aller approfondir ces deux points spécifiques, avec deux buts principaux. C'est éviter la stagnation spirituelle. On est tous passés par là, je crois qu'il y a des moments où on stagne dans la vie. Je crois pas que ce soit le plan de Dieu, et donc comment on fait pour aller plus loin? Et aussi également, c'est une constatation aussi, c'est comment on fait pour ne pas rejeter les bénédictions que Dieu nous donne. Dieu des fois nous donne des choses et on les rejette, on n'en veut pas. Et ça c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma vie, dans la vie des autres, et on voit dans la parole, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vous propose d'approfondir ces différents points, comment ne pas rejeter les bénédictions de Dieu. Et ce message, j'étais surpris, je l'ai commencé il y a un moment maintenant, et il y a un mois à peu près, Ina m'a fait un message sur la délivrance. Donc il prenait l'exemple des Israélites qui avaient été délivrés de l'esclavage en Égypte. Et on a vu différents exemples concrets, des témoignages de la délivrance que les personnes ont connue. Et donc j'étais en train de préparer ce message, et c'est ce que je vais vous partager ce matin, c'est vraiment la continuation de ce que Inam nous a partagé il y a quelques semaines maintenant. Donc l'exemple qu'on va prendre ce matin, le principal exemple, c'est l'entrée dans la terre promise. Donc les Juifs ont connu la délivrance, ils sont sortis d'Égypte, et après l'entrée dans la terre promise qui s'est faite de façon assez douloureuse. Et on va étudier ça un petit peu pendant ce message. Donc juste un petit rappel avant de commencer quand même, la terre promise, hein, l'image que l'on a pour nous dans la nouvelle alliance, c'est vraiment le royaume de Dieu, hein, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est pas sur ce point-là que je vais me focaliser ce matin, mais c'est plus le comportement humain, notre comportement pour quand on rentre dans la terre promise. Donc on va commencer sur la première partie, donc franchir l'étape, aller plus loin. Et donc avec l'entrée dans la terre promise, comment ça s'est passé? On va lire comment le peuple de Dieu s'est comporté à ce moment-là. Et on va lire dans la parole, on va pas mal lire ce matin, il faut être un peu courageux. Donc dans Nombre 13, à partir du verset 1, donc Nombre 13. Donc en Nombre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms, je ne vais pas les citer. Donc là on voit deux mots qui sont clés: l'Éternel, et je donne aux enfants d'Israël. C'est une bénédiction, je la donne. C'est vraiment ce que Dieu a fait. Et l'autre point que j'aimerais souligner, les espions qui ont été envoyés, les explorateurs, c'était des chefs de la tribu d'Israël. Donc il y en avait un par tribu, ils étaient 12 en tout à partir, et un par tribu, et c'était des chefs, des leaders de la tribu d'Israël, du peuple de Dieu. Donc après on va pas le lire, mais je résume rapidement. En verset 17 à 20, donc Moïse donne ses instructions pour l'exploration, voilà ce qu'il doit faire, et les encourage. Il encourage chacun des explorateurs à y aller. Hein. Après, du verset 21 à 24, c'est l'exploration. Donc là, on voit comment ça s'est passé, où est-ce qu'ils sont allés, etc. Il rapporte également une grappe de raisin, qui semble-t-il était très très grande. Et enfin, donc au verset 25, c'est le compte-rendu que nous allons lire, des explorateurs dans la terre promise, de la terre promise. Donc, nombre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc là, on voit déjà la confrontation qui commence. On va encore continuer un petit peu parce que c'est vraiment instructif la suite. Enfin, un peu de courage, après ça ira mieux. Donc à partir du chapitre 14, verset 1, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dirent, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par les fées, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et partit. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Donc c'était un texte un peu long, mais c'est vraiment très instructif pour nous qui voulons aller plus loin et regarder les obstacles qui nous empêchent d'aller plus loin. Donc on se rend compte que le peuple, déjà, il rejette la bénédiction de Dieu. Dieu a dit, je vous donne ce pays. Et le peuple, il dit, non, je veux pas. Et encore plus loin que ça, ils ont connu la délivrance en sortant d'Égypte. Et non, ils veulent retourner en Égypte. Je pense que pour nous, en tant que chrétiens, c'est quelque chose que l'on peut vivre, c'est retourner en arrière. Et évidemment, c'est la mauvaise direction à prendre. Donc on voit les deux points de vue qui s'affrontent, Josué et Caleb, qui eux regardent, ils ont compris, ils sont allés, ils ont vu le pays, ils ont vu les habitants, ils ont compris la difficulté que ça représentait, mais ils regardent à l'Éternel pendant l'épreuve. Et après, il y a le reste des explorateurs, donc les 10 autres qui sont partis, et ils ont une approche humaine. Ils regardent juste, nous allons nous battre, nous risquons notre vie, c'était quand même réel, hein, les combats qui devaient se passer. Et donc ils disent, nous ne voulons pas y aller. Donc dans les épreuves, il y a le choix de la vision que l'on veut avoir. Est-ce qu'on regarde à l'Éternel ou est-ce qu'on regarde à ce qui se passe réellement sur terre, ou réellement entre guillemets, entre ce qu'on voit sur terre? Donc est-ce qu'on s'appuie sur notre vue ou sur Dieu? Il y a l'autre point que j'aimerais juste souligner, alors c'est plutôt une aparté dans le message, mais les 12, ce sont des leaders du peuple. Et parmi les leaders, il y en a 2 qui disent on y va, il y en a 10 qui disent on n'y va pas. Le peuple de Dieu suit la majorité des leaders. Il est important de prier pour nos leaders, pour aller dans la bonne direction. Alors les leaders, ça peut être les leaders de l'église, ça peut être les leaders de famille. Voilà, je sais pas s'il y a beaucoup d'enfants là, mais combien de temps vous passez pour prier pour vos parents? C'est eux qui vous dirigent, priez pour eux, quoi. Le travail, combien de temps on passe à prier pour le travail, pour nos chefs au travail? C'est quelque chose d'important. On passe plus de temps, je pense, à critiquer qu'à prier pour eux, quoi. Les groupes d'amis, souvent dans les amis, il y a des leaders, donc qu'on puisse prier pour ces leaders. Notre nation, évidemment, prier pour ces nations. Et en plus, on se rend compte que dans les points que j'ai cités, que ce soit l'église, la famille, le travail, les amis, les nations, tout ça, ce sont des bénédictions que Dieu nous donne. Dieu nous donne des bénédictions. Est-ce qu'on préfère critiquer les bénédictions que Dieu nous donne, ou est-ce qu'on préfère prier et aller de l'avant dans ces bénédictions que Dieu nous donne? Ne repartons pas en arrière. Donc si on revient sur le passage que nous venons de lire, ce qui se passe, c'est la peur. Les explorateurs ont eu peur des habitants du pays. C'est la peur qui a conduit en fait leur réaction. Donc il y a un problème de foi en Dieu. Ils n'ont pas cru que Dieu les rendrait plus forts que les habitants du pays. Et c'est d'un point de vue humain, c'est peut-être une réalité que ces habitants étaient plus forts. J'en suis pas sûr, parce que le peuple de Dieu était très nombreux. Ils sont sortis, ils étaient plus d'un million d'hommes aptes au combat. Ils sont sortis d'Égypte, donc ils étaient très nombreux. Je suis pas sûr, mais même quand on défend la supériorité, on a l'impression que les autres, ils sont plus forts que nous. Et là, c'est ce qu'ils ont vu. L'obstacle est plus fort que nous. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, en fait, on ne s'attache plus à ça. On a conscience des difficultés, mais c'est lui qui combat pour nous. Et on avance et on fait le travail, entre guillemets. C'est, quand je m'attardais sur ce point-là, il y a un point qui m'a frappé également. Là, c'est une autre parenthèse que j'ouvre, mais sur Chartres, voilà, on est une poignée de chrétiens, une poignée d'hommes, de femmes. Et des fois, on nous dit, mais comment on va évangéliser cette ville? Comment on peut apporter la parole? Et on a peur des habitants, on a peur de l'action, parce qu'on est une poignée, on est une minorité. Mais c'est pas à ça qu'il faut regarder. Il faut regarder vraiment, c'est Dieu qui agit, c'est pas nous, c'est Dieu qui agit au travers de nous. Et si on approfondit encore sur la peur des habitants, on se rend compte, la peur, c'est quoi? Ça fait partie de notre personnalité, nos émotions. C'est une partie de nous-mêmes. Et nos émotions font partie de notre personnalité, et la peur est donc notre personnalité. Et dans ce cas-là, c'est la personnalité des enfants de Dieu à bloquer l'action de Dieu. C'est leur peur, c'est leur émotion qui a bloqué l'œuvre de Dieu pendant un certain temps. Et c'est un point qui est important, il faut travailler notre personnalité, parce que pour ne pas qu'elle bloque l'action de Dieu. La peur, des fois, peut nous empêcher de faire des actions. Et donc, on a du travail. Ça peut être sous deux formes. Dieu peut donner une délivrance. On a quelque chose qui nous coince. Dieu peut nous délivrer, comme on a vu avec le message Inab. Ou alors, ça peut prendre plus de temps, plus de long terme, un travail plus de long terme, qui peut nécessiter aussi un accompagnement, je ne sais pas. Et bien sûr, ce travail sur la personnalité, il faut le faire avec Dieu. Et ce qui va nous conduire aussi dans le travail de notre personnalité, je pense, un point important, c'est comprendre quels sont les dons, à la fois humains, charnels, que Dieu nous a donnés à naissance, et les dons spirituels qu'il nous a donnés pour faire progresser, pour nous faire grandir et aller dans la croissance au niveau de la personnalité. Typiquement, si Dieu donne un don d'évangéliste à quelqu'un et que cette personne est timide, ne va pas vers les gens. C'est sa personnalité qui va bloquer l'action de Dieu, alors qu'il a reçu le don, qu'il a tout pour y arriver. Et donc il faut travailler sur ces points-là, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et donc là, la question qui vient pour nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, tout de suite, c'est, mais dans ma personnalité, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'action de Dieu? Où est-ce que j'ai besoin de grandir dans ma personnalité pour ne pas bloquer l'œuvre de Dieu, aller dans la croissance et aller de l'avant? Donc il peut y avoir plusieurs points que j'ai nommés, une liste non exhaustive. On peut avoir l'orgueil, la fierté, la timidité, la peur, être craintif. Le manque de persévérance aussi, il faut de la persévérance quand on est enfant de Dieu. L'amour du siècle peut aussi être un frein. Aimer le confort, l'argent, les loisirs. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à savoir qu'est-ce qui, dans ma personnalité, bloque l'action de Dieu. Je pense que, en tout cas, moi, je fais partie de cela. Dans le passé, je sais que j'ai loupé certaines actions que Dieu avait prévues parce qu'il y avait des choses parce que j'ai dit non à un moment. Et c'est pas le plan de Dieu, ça. Il faut réussir à aller plus loin dans tout ça. Donc, réfléchir à ça, et je pense aussi qu'on a besoin que Dieu nous montre, que Dieu nous révèle des choses qu'on ne voit pas. Des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des points qui bloquent, qui le bloquent, on ne se rend pas compte. Priez pour que Dieu nous montre les points qui nous empêchent d'avancer et d'aller dans la croissance. Un petit petit encouragement dans ce travail qui est quand même de longue haleine souvent. Si on peut regarder en arrière, et voilà, il y a 10 ans, il y a des choses qu'on faisait qui nous paraissaient une montagne, quoi. C'était super difficile, etc. Et aujourd'hui, on peut les faire au quotidien et c'est complètement naturel, quoi. Là, notre personnalité est appelée à grandir, à se développer et à surmonter nos problèmes. Toujours une note positive, parce que le texte est quand même très négatif, et j'aimerais juste vous dire ça, c'est Josué et Caleb, donc les deux qui ont dit « on y va sur la terre promise », c'est les deux qui sont rentrés plus tard sur la terre promise. Ils ont eu leur bénédiction parce que là, ils ont eu la foi. Et la foi leur fut imputée à justice, comme c'était le cas pour Abraham. Et Dieu a accompli sa promesse. Ils ont vu la terre promise. Ils sont entrés dans le pays. Alors ça n'a pas été facile quand on lit la suite. Mais ils ont vu la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et même dans ce contexte négatif, où là c'était une grosse confrontation. Hein. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Tout le peuple était autour. Et dans ce contexte négatif, ils ont gardé la foi. Ils ont continué à croire que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Josué et Caleb étaient de la même nature que nous. Si Josué et Caleb ont pu avoir la foi, je veux dire, pour nous c'est tout à fait possible, c'est des êtres humains. C'est l'apôtre Paul qui nous a rappelé ça. Ça ne concernait pas Josué et Caleb, mais de la même façon, Josué et Caleb n'étaient pas des hommes extraordinaires. C'était des hommes comme vous et moi. Donc on peut aller plus loin. J'aimerais juste faire un parallèle. Donc là, on était dans l'Ancien Testament. J'aimerais juste faire un parallèle dans le Nouveau Testament, parce qu'on pourrait se dire maintenant on est sous le régime de la grâce et on ne peut plus rien manquer. On ne peut plus manquer les bénédictions que Dieu nous donne, on ne peut plus rien louper. Je pense que c'est pas vrai. Juste un verset, enfin un passage que j'aimerais lire dans Matthieu 19. Bon là il s'agit de la conversion, mais je l'ai trouvé très parlant parce que ça reflète ce que le peuple de Dieu avait connu. Donc en Matthieu 19, à partir du verset 16... Nous avons ce texte suivant, donc Matthieu 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? » lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, viens, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il a rejeté la bénédiction de Dieu, quoi. La plus belle, en plus, celle du salut, quoi. Cet homme, par sa personnalité, parce qu'il avait l'amour de l'argent. C'était un choix, c'est un choix qu'il a fait. Et donc il y a vraiment un rejet de la bénédiction. Après, dans le Nouveau Testament, il y a quand même quelque chose qui change profondément par rapport à l'Ancien. C'est que Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Il a réussi, c'est quand même un exploit, à prendre 12 hommes, 12 disciples, à les former. 11 à la fin sont entrés pleinement dans la bénédiction. Et après, ces 11 ont transmis la bénédiction à d'autres, hein, au travers de l'évangélisation. Il a réussi à le faire. C'est le bon berger. C'est-à-dire que même si nous chutons, si à un moment on rejette parce qu'on s'est trompé, Jésus, sa volonté, c'est de nous récupérer et de nous ramener dans la croissance, de nous ramener dans la bénédiction que lui a prévue. Et la seule question, c'est est-ce que l'on veut laisser la place à Jésus pour grandir ? Donc quelques points qui ont bloqué donc la croissance et qui ont le rejet, disons, des bénédictions de Dieu. Et maintenant, j'aimerais passer sur l'aspect de défendre, de conserver le terrain que Dieu nous a donné, les bénédictions que Dieu nous a données. Comment on fait pour les conserver ? Des fois, on ne se rend même plus compte des bénédictions que Dieu nous a données. Je vais vous donner quelques exemples de gens qui sont passés. Donc là, eux, ils ont connu la délivrance, ils sont entrés sur la terre promise, mais ça s'est pas bien passé par la suite. Donc on se rend compte des descendants d'Élie. Élie, donc c'est Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur qu'on retrouve dans 1 Samuel. Donc il avait deux fils. Donc Élie était lévite. C'est-à-dire que dans l'héritage, la terre promise qui était définie pour cette tribu, c'était le sacrifice et le service de Dieu. C'était peut-être, c'est mon opinion, la plus belle bénédiction de l'entrée de la terre promise. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une relation directe avec Dieu. C'était eux qui étaient censés servir Dieu à plein temps et d'être constamment connectés à Dieu. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, la conversion, c'est quoi ? C'est le rétablissement de la relation avec Dieu. C'est le plus bel héritage que l'on ait. Donc je pense que les Lévites avaient le plus bel héritage de toutes les tribus d'Israël. C'est mon opinion, ça n'engage que moi, c'est écrit nulle part. Donc on va lire encore un texte dans 1 Samuel. Au chapitre 2, à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondit « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. On voit un peu plus loin, on va continuer de lire. Je suis désolé, ce matin on lit beaucoup, mais c'est quand même très enrichissant. Donc, toujours dans 1 Samuel 2, là, à partir du verset 22. Donc là, c'est Élie, donc le père des deux sacrificateurs, qui parle. Donc Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » On va lire juste deux versets plus loin. Donc là on passe au chapitre 4, les versets 10 et 11. Donc c'est plus tard. Donc Israël était en guerre contre les Philistins. Ils avaient perdu une première bataille. Et donc pour gagner la deuxième bataille, puisque le peuple s'est dit, ben on va aller chercher l'arche de Dieu et ça va nous donner la victoire. Et donc ceux qui ont accompagné l'arche de Dieu, c'était les deux fils d'Élie qui étaient sacrificateurs, c'était leur rôle. Donc les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes à pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Il faut savoir que être lévite, c'était un héritage. On l'avait de père en fils. Et là, ils ont tout perdu. Ils ont perdu tout leur héritage. Ils sont morts. Et on lit dans d'autres passages que plus aucun des descendants d'Élie ne put être sacrificateur. Ils ont perdu leur terre promise. Il y a beaucoup d'autres exemples. On lit l'exemple de Saül. Saül a été désigné roi d'Israël. Il a reçu l'onction. Mais à un moment, il n'a pas obéi à l'Éternel et il a tout perdu. Il a tout perdu. Et c'est David. Il est mort dans une bataille. C'est le roi David qui a pris sa place. On voit aussi le peuple de Dieu qui était entré en terre promise, mais qui après a été déporté à deux reprises, loin de leur terre promise, loin de la bénédiction qu'ils avaient reçue. Ils sont retournés un peu plus tard, mais on voit qu'ils ont perdu leur bénédiction. va passer maintenant dans le Nouveau Testament et écouter en fait ce que Paul nous enseigne concernant la croissance, qui est pour lui quelque chose de capital et d'essentiel et d'indispensable dans la vie chrétienne. Donc la croissance, c'est donc aller plus loin. Donc en 1 Corinthiens 3, à partir du verset 2, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul », et un autre « Moi d'Apollo », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollo, qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Donc là, c'est le premier avertissement qu'on trouve à Corinthiens. Donc les Corinthiens, ils s'adressent aux habitants de Corinthe qui étaient chrétiens. C'était dans l'église, là, le message était pour les chrétiens. Et ils ont du mal à grandir. Et on va voir un verset un peu plus loin, non pas dans le Corinthien, mais dans Hébreux. Il est encore plus violent, Paul, dans la nécessité de la croissance. Donc Paul s'adresse aux Hébreux, chrétiens, qui stagnent ou qui régressent. Et il est très dur à ce sujet. Donc en Hébreux 5, à partir du verset 13, Hébreux 5, verset 13, nous avons beaucoup à dire à ce sujet, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Là, ce qu'il cite, là, c'est les bases de la vie chrétienne. Tout chrétien devrait avoir ses bases et ses fondements dans sa vie chrétienne. Plus loin, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Là, il va citer après une parabole. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce texte, mais on commence par le lire. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Et si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Là, c'est vraiment une très très forte exhortation de Paul à la croissance spirituelle et à entrer dans la maturité. Donc Paul cite les fondements nécessaires qui doivent être acquis pour pouvoir après passer à d'autres choses. Et donc ces fondements, en fait, il donne cette. Alors c'est la traduction dans la Bible que j'ai utilisée, c'est la seconde 21. C'est afin de devenir des enseignants. Enseignant, on peut dire, moi, c'est celui qui prêche le dimanche, ouais, mais il n'y a pas que ça. Si celui qui fait l'évangélisation, il va aller parler aux gens, donc il va enseigner également. Il y a multitude de voies d'enseigner, et je pense que tout chrétien doit apporter un enseignement au travail, partout. Donc les fondements que Paul cite, je pense qu'ils ne sont pas forcément exhaustifs, mais on va relire la liste qu'il donne. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, donc on retrouve ce que le peuple de Dieu n'a pas eu au début, quand il a fallu rentrer dans la terre promise. l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, la résurrection des morts, nous allons tous ressusciter au dernier jour. Le jugement éternel, nous allons tous être jugés au tribunal de Christ après notre résurrection. Et donc on trouve cet avertissement donné par Paul et qui... C'était un point où je m'étais beaucoup posé de questions au début de ma conversion. En effet, ceux qui ont été éclairés, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et pour ceux qui sont tombés. Aujourd'hui, on voit dans notre église où des gens qui ont quitté, qui ont tout abandonné, on voit, à l'époque de Paul, c'est pareil. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc pour moi c'est vraiment une mise en garde et voilà, on est chrétien mais ne tombons pas quoi. Ça peut nous arriver. Et surtout, je me disais, mais quand je m'étais converti, quand on a goûté à Dieu, quand on a goûté à la présence de Dieu, comment on peut le rejeter après quoi? Je comprenais pas quoi. C'est quelque chose qui était vraiment trop incompréhensible pour moi. On va lire la parabole également, elle est intéressante à lire, la parabole que Paul donne pour comprendre la nécessité de la croissance. Lorsqu'une terre arrosée de pluie, donc la terre c'est nous, arrosée de pluie fréquente, donc là on peut dire l'arrosée de pluie, c'est les messages que nous entendons, ce que Dieu nous fournit, ce que Dieu, les bénédictions qu'on peut voir, produit des plantes utiles pour ceux qui, utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Donc ce qu'on a reçu, on retransmet aux autres. Je pense que c'est un principe de base de la vie chrétienne. On redonne aux autres. Et alors Dieu y bénit. Il nous bénit dans notre vie. Quoi. C'est vraiment quelque chose de base. Quoi. Je pense que Dieu veut vraiment que ça coule. On se convertit, on reçoit, après on redonne aux autres. Et après, on reçoit des bénédictions. C'est quelque chose de naturel. Donc la suite du verset, par contre, qui est très 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 sévère. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. La nécessité de la croissance. Alors là, je suis resté dans tout le négatif, là, dans la deuxième partie. Je vais vous donner quand même des points très positifs, parce qu'on a d'excellents exemples de gens qui ont réussi à croître dans leur vie et qui sont dans la parole. On voit David, le roi David, c'est un excellent exemple, même s'il a fait des erreurs, il est toujours revenu à Dieu et dans toute sa vie, il a connu la bénédiction. On voit Daniel, il y en a d'autres, hein, mais j'en ai cité quelques-uns. Daniel, pour moi, est vraiment une bénédiction. Il était dans un environnement extrêmement contraire à la foi. Il a tenu ferme, il a témoigné, il a vu la bénédiction de Dieu beaucoup dans sa vie. Et l'autre point négatif, je reviens par rapport à la première partie qui était l'entrée, là, donc dans la conservation, dans la croissance. Encore une fois, Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger et c'est lui qui veut nous faire croître. On se trompe des fois, on peut régresser, ça arrive, hein. Faut pas le rechercher, bien évidemment. Mais Jésus, il est là, c'est le bon berger. Il va chercher la brebis qui s'égare pour la ramener dans le troupeau et pour la ramener à la croissance. C'est ce que fait Jésus. C'est notre avocat auprès du Père. Il intercède et il veut nous ramener dans le chemin de la croissance. Il veut nous faire grandir. C'est son plan. Et le seul point qui peut bloquer, c'est le voulons-nous, quoi. Est-ce qu'on veut que Jésus nous fasse grandir? Le seul point qui peut bloquer, c'est est-ce qu'on le veut? Et on rejoint la notion de la personnalité. On peut des fois par orgueil ne pas le vouloir, on peut des fois pour différentes raisons ne pas le vouloir. Et là j'arrive à la conclusion. En conclusion, en fait, j'aimerais apporter deux questions. Déjà d'un point de vue intellectuel, qu'est-ce qui verrouille? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin avec Dieu? Et bien sûr, après il y a la question, cette question on la pose à Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans ma vie, qui m'empêche de grandir? J'ai envie de grandir, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui m'empêche? Je vois peut-être pas clair. Dieu voit tout dans notre vie. Et c'est lui qui sait ce qui peut coincer. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? La deuxième question que j'aimerais poser, quelles sont les bénédictions que Dieu a données dans votre vie? Alors moi, je peux pas y répondre, c'est chacun. Et se le rappeler simplement pour ne pas les rejeter et pour pouvoir rester dans ce que Dieu nous a donné. Voilà, j'arrive à la fin. J'aime bien terminer les messages par un moment de prière et laisser le temps à Dieu aussi d'agir, parce qu'on parle, mais Dieu il agit aussi au travers du Saint-Esprit. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe un moment, que chacun puisse peut-être se souvenir de ces deux questions et de réfléchir et de demander à Dieu d'agir, de dire voilà, qu'est-ce qui va pas, et puis voilà, prendre un peu de temps. Un peu de temps, c'est bien. Père Saint, nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui règnes, Seigneur. Et parce que tes plans, Seigneur, pour tes enfants sont merveilleux. C'est des plans de bénédiction, Seigneur, et non de malédiction. Et nous te louons, Seigneur. Te prions, Seigneur, de nous faire entrer tous, moi le premier, Seigneur, vraiment dans tes plans, Seigneur, dans ta bénédiction, Seigneur, dans ce que toi tu as prévu pour nos vies, Seigneur. Te prions vraiment de nous éclairer, Seigneur, et de nous faire progresser, Seigneur.